Alors quel est notre plus grand besoin? Quel est le plus grand besoin de notre cœur? Il y a plusieurs façons de l'exprimer, mais si je vous dis notre plus grand besoin est celui d'être béni, est-ce que c'est pas après cela que notre cœur soupire de cette bénédiction sur nos vies? D'être béni, oui, mais par qui? D'être béni par Dieu, hein, le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. D'être béni également, dans quel but? Là, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle. Toute finalité ici-bas est pour Dieu. Et si Dieu veut nous bénir, c'est parce que il le souhaite, parce que c'est son souhait, et c'est quelque part, c'est pour Dieu, c'est pour lui. Il veut nous bénir pour que, à son tour, nous répandions sa bénédiction et que nous le bénissions. Alors on va lire Genèse 35, on va s'arrêter au verset 5 et on va lire la suite maintenant ce matin, jusqu'à la fin du chapitre. Jacob, verset 6, Genèse 35. Verset 6, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Verset 7, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. L'histoire ici d'Ésaü et de Jacob, on va en reparler. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et tes rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oumi, fils de ma douleur. Mais le père l'appela Benjamin, fils de ma droite. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre et c'est le monument du sépulcre de Jacob, de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Et pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12, fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bilha, servante de Rachel, Dan et Nephtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont les fils de Jacob qui lui naquirent à Padan-Aram. Jacob arriva après auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Seigneur, merci pour ta parole. Tu as permis que nous ayons ces histoires de famille qui nous viennent de si loin dans le temps, mais qui sont pour nous ce matin une nourriture et une instruction, qu'à travers ces récits, tu veux nous instruire, tu veux nous enseigner, pour que nous puissions ce matin encore saisir ta bénédiction. Merci de nous bénir ce matin, comme nous écoutons ce message. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Alors j'ai choisi comme titre au message « Les pages de nos vies tournent, mais la bénédiction de Dieu écrit l'histoire. » Les pages de nos vies tournent, mais la bénédiction de Dieu écrit l'histoire. Le point central de notre texte, c'est le moment, bien sûr, où Dieu parle à Jacob. C'est le moment qui est saillant là, de notre texte. Et nous allons regarder tout ce qui se passe autour de ce moment où Dieu a béni Jacob. Il s'est révélé à lui les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Alors la bénédiction de Dieu est à Bethel. Bethel. Après le drame de Sichem, sur lequel je ne reviendrai pas, Dieu a ainsi parlé à Jacob, au début de notre chapitre. « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Bethel, c'est le lieu où Dieu est apparu pour la première fois à Jacob. C'est la fameuse échelle, là où il avait vu l'échelle, la porte de la maison de Dieu. C'est là où Dieu lui avait parlé et lui avait fait la promesse. Il lui avait répété les bénédictions, la bénédiction qu'il avait donnée à Isaac et à Abraham. Bethel est aussi le lieu où Jacob s'est engagé, où il a dit « Si tout ce que tu me dis est vrai, alors, si tu es avec moi, comme tu le dis, si tu m'accompagnes, si tu me ramènes, alors tu seras mon Dieu. Tu ne seras pas le Dieu seulement de mon père et de mon grand-père, tu seras mon Dieu. » Jacob s'était engagé là-bas à Bethel. Et Jacob donc décide de ramener sa tribu vers Dieu après l'épisode de Sichem. Tout le monde doit se purifier des faux dieux qui pullulent dans tout le camp. On ne sait plus le sens de la circoncision dans le clan de Jacob. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Tout cela doit changer. Et Jacob prend des initiatives. Revenir à Bethel. Alors, est-ce que nous avons un Bethel à nous aujourd'hui? Est-ce que vous avez votre Bethel? Ce ne sera pas un lieu géographique. Hein. Si vous tapez « porte de la maison de Dieu » sur Google Maps, il ne va pas vous trouver la localisation. Non, la porte de la maison de Dieu ne se trouve pas sur Google Maps. Bethel, c'est le lieu où on est connecté à Dieu. C'est le lieu où l'on communique avec lui. Si la connexion est coupée, notre mémoire est là pour nous souvenir des circonstances où, avant, ouais, ma vie était différente. Avant, j'étais connecté à Dieu. La bénédiction de Dieu est à Bethel. Là où nous pouvons nous souvenir que Dieu nous a parlé la première fois, là, c'est où? C'est au pied de la croix, pour nous chrétiens. Bethel, c'est au pied de la croix, la porte de la maison de Dieu. La bénédiction de Dieu est à Bethel. La bénédiction de Dieu baigne dans les douleurs de la vie. Excusez-moi cette expression, mais il ressort de ce texte tellement de situations dramatiques et de douleurs. Ça commence avec la mort de Déborah. Alors Déborah, c'est la mamie, hein, la mamie de toujours et de tous à ce moment-là. C'est la nourrice qui a allaité la mère de Jacob. Et Jacob est déjà très âgé. C'était une femme qui a vécu exceptionnellement longtemps et qui a eu une vie qui a marqué vraiment le groupe là. On la pleure beaucoup, Déborah. Et pourtant, ils ne l'ont pas connue très longtemps. Elle était partie avec Rebecca de chez Laban. Elle était venue, elle avait suivi Rebecca, mais elle n'était pas repartie avec Jacob. Donc Jacob a fait une partie de sa vie avec tous ses enfants à Padan Aram. Et quand il est revenu ici, c'est à ce moment-là qu'ils ont, je ne sais pas, les circonstances ne sont pas précisées, mais qu'ils ont retrouvé la nourrice de la maman de Jacob, Déborah. Et ce petit verset ici est lourd de sens. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. La parole de Dieu n'a pas son pareil pour mettre des personnes à l'honneur. Et c'est le cas de Déborah, une simple nourrice, ici. Jacob doit aussi enterrer sa chère épouse Sarah. Sarah meurt en donnant la vie à Benjamin. La douleur de la mort et de la vie, et de la joie de la vie qui se mélange ici. Alors, on peut dire beaucoup de choses. Mais pourquoi il a quitté Bethel? Pourquoi il n'a pas attendu que l'accouchement ait lieu? Pourquoi? Et ce qui est bon, vous avez vu ça, Jacob dresse un monument. Il a le désir de se souvenir de son épouse. Et Dieu s'est associé à Jacob dans son souhait. Moi, j'ai vu de deux manières. D'une part, le monument existe toujours, comme dit le texte. Ce monument existe, il a traversé les siècles. Et d'une part et d'autre part, Sarah est mentionnée au moment de la naissance de Jésus, là aussi, avec des pleurs. Lorsque tous les enfants sont massacrés par Hérode le Grand, il est écrit que Rachel pleure ses enfants. Jacob doit aussi vivre la blessure que lui inflige son fils aîné. Vous l'avez lu, on l'a lu tout à l'heure. Lorsque Ruben va coucher avec Bilha, qui est la mère de deux de ses frères. Je ne ferai pas d'autres commentaires là-dessus. On peut se représenter ce que ça a pu être pour Jacob que de son fils aîné se comporte comme ça dans sa famille. C'était, comme on dit, il a encaissé. Et il est mentionné en fait le départ de Isaac dans ces circonstances de la bénédiction, âgé de 180 ans. Alors, quel âge a Jacob au moment où Isaac s'en va? Jacob est né quand Isaac avait 60 ans, donc ça fait 120 ans. Jacob n'était pas un jeune homme, hein. Quand il lui arrive tous ces événements ici, dans ce chapitre, il a déjà passé la centaine d'années. Hein. Et on voit ici le terme d'Isaac a eu une vie bénie. Il expira, il fut enseveli auprès de son peuple, rassasié de jours, et il a ses deux fils qui sont là pour l'enterrer. La bénédiction de Dieu baigne dans les douleurs de la vie. La bénédiction de Dieu se vit dans un contexte familial, je l'ai exprimé ainsi. Il est mentionné la présence donc d'Ésaü pour l'enterrement de Isaac. Et ça remet en mémoire l'histoire des deux rivaux hein, qu'on a vu. Et je voudrais revenir sur ces deux bénédictions qu'a donné Isaac. Vous savez, la bénédiction de prospérité qu'il avait destinée à Ésaü et qui a été volée à Jacob. Et Jacob a eu un maigre lot de consolation. Chapitre 27, verset 40. Isaac avait dit à Jacob, le perdant, « Tu vivras de ton épée, tu seras servi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessous, de ton cou. » Il n'y avait plus rien pour Ésaü. Bon, on voit que ça s'est pas quand même passé comme ça. Hein. On a vu la rencontre d'Ésaü et de Jacob, et Ésaü a quand même eu une vie bénie. Et quand on va la semaine prochaine voir le chapitre 36, Dieu accorde une grande place à Ésaü dans la parole de Dieu. On va voir tout ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc 27-40 ne s'est pas accompli, du moins ça s'est pas accompli du vivant de ces deux frères-là. Il y a une portée prophétique qui s'étale dans le temps, on verra ça la semaine prochaine. Avoir la bénédiction de son père, c'est formidable. Je crois que si tous les enfants du monde pouvaient avoir la bénédiction de leur père quand ils grandissent jusqu'à quitter le foyer, notre monde serait radicalement différent, je crois. La bénédiction des papas manque dans tellement de familles. Ça fabrique bien des problèmes. Mais la bénédiction qui compte, on la voit ici, c'est bien la bénédiction de Dieu. C'est elle qui a la suprématie. C'est bien cette bénédiction-là qui est à l'œuvre dans cette famille et qui a permis que les deux fils soient là ensemble pour enterrer leur papa, réconcilier. C'est l'œuvre de Dieu. Regardons maintenant la bénédiction de Dieu envers Jacob. Après avoir vu le contexte, je vais relire cette bénédiction de versets 9 à 13. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Alors on a une bénédiction qui était historique. Ça reprend les termes et les formulations qu'on a rencontrés avec Abraham, qu'on a rencontrés avec Isaac, et également que Jacob a déjà entendu quand il était à Bethel, et également qu'il a entendu quand il revenait, quand il était à Péniel, quand il a franchi le torrent, qu'il a lutté contre Dieu à ce moment-là, où il a reçu ce nom. Une bénédiction qui entre dans le cadre de la bénédiction, du plan de Dieu, de bénédiction de Dieu pour l'humanité. Dieu a un plan pour l'humanité, il a un plan pour l'homme. Ce plan se déroule et la bénédiction de Dieu entre dans ce plan-là. C'est pas hors sol, c'est dans un projet. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Il a un projet de bénédiction qui rentre dans sa grande histoire, dans la grande histoire du salut. C'est une bénédiction qui est renouvelée également pour la seconde fois. Dieu répète cette promesse de Péniel de lui donner un nom nouveau. Alors, Dieu confirme à Jacob ce nom nouveau, un nom nouveau pour une nouvelle vie. Il va y avoir des changements. Le nom d'Israël va marquer maintenant le temps de la multiplication. Ça va être la fin du temps des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, le temps des patriarches. Le nom de Jacob ne va pas disparaître, mais le nom d'Israël est celui qui va briller. Et tout particulièrement, il brille sous le règne de David. Il reçoit un nom nouveau, mais il garde quand même l'ancien. Hein. Jésus a donné un nom nouveau à Pierre, à Simon, il l'appelait, tu t'appelleras Pierre. Et il appelle quand même dans la suite Simon-Pierre. Et donc pour Jacob, on verra que c'est la même chose. Dieu s'adresse encore à lui en l'appelant Jacob, et il est appelé Jacob, mais c'est le nom Israël qui prend le dessus et qui va être porteur de cette dynamique de multiplication. La bénédiction entre dans un cadre historique, elle est renouvelée pour chaque génération et pour Jacob dans sa vie, renouvelée également dans nos propres vies. Et une bénédiction qui est dynamique, j'ai mis ce nom dynamique. Elle s'est enrichie ici d'un commandement, vous avez vu, sois fécond et multiplie. Sois fécond et multiplie. Les choses changent, car le plan de Dieu pour la bénédiction de toutes les nations avance et des choses doivent se mettre en place. Du temps des patriarches, vous avez remarqué, tout allait si lentement. Abraham a eu un seul fils il avait 100 ans quand il a eu son fils Isaac, un seul fils qui était porteur de la héritier de la promesse. Et Isaac n'a eu qu'un seul fils qui était porteur et héritier de la promesse, Jacob. Et il l'a eu on voit pour Jacob les choses vont changer, les 12 fils. Ces 12 fils vont être héritiers de la promesse. Et Jacob les a quand même eu tardivement. Si on compte les années telles que la Bible les présente, c'était déjà une personne qui était certes très vigoureuse, mais très âgée. Hein. Ça fait dans les 93 ans qu'il avait, hein, quand il a eu ses enfants. Hein. Donc il était plus très jeune. Amusez-vous à faire le calcul. Maintenant, ça va changer. Alors, on a une belle illustration avec Benjamin, c'est le tout dernier. Bon, l'illustration n'est pas directement dans notre texte, mais Benjamin, le dernier de la famille, quand la tribu vont rentrer en Égypte, retrouver Joseph, il y a toute l'histoire de Joseph qui suit, qu'on verra à une autre occasion, ben là, Benjamin, le dernier de la famille, il a 10 fils et il a 32 ans. On est dans une autre échelle, on est dans une autre dimension, on a changé de monde. Le temps des patriarches est terminé. C'est le temps de la multiplication qui est là. Bon, je pense que c'est surtout sa femme qui a le mérite et qui doit avoir les louanges. Mais bon, il n'empêche. Quand il rentre en Égypte, c'est Benjamin qui a le plus d'enfants. C'est lui qui a pris à cœur cette promesse avec sa femme. Ouais, il faut qu'on multiplie. Ils se sont dit, quoi? Ils sont rentrés dans ce commandement à fond. Les temps ont changé. C'est le temps d'Israël maintenant. La bénédiction de Dieu entre dans un cadre du plan de Dieu, ce cadre historique du plan de bénédiction de Dieu pour l'humanité. Elle est confirmée pour chaque génération et elle est dynamique. Elle est au service du plan de salut. C'est pas quelque chose qui est statique, qui est figé. Et donc les choses vont évoluer, changer, se modifier au fur et à mesure que Dieu déroule son plan de salut. À travers toute la Bible, on voit ça. Et on peut supposer que depuis, quand on regarde toute l'histoire de l'Église, on voit qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Alors aujourd'hui, la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Moi, je la verrai dans le prolongement de cette bénédiction, sont dans les paroles de Jésus. En Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, je pense que c'est là notre point de repère. Si on veut savoir la bénédiction de Dieu, c'est quoi? Je pense qu'il faut revenir à ce texte. Là, on aura un bon point de repère. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles. Matthieu 28, les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Donc, 28, 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes, et Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Si on est dans la nouvelle alliance, il y a des choses qui ont changé. Le plan de Dieu a avancé. Et la multiplication ne se fait plus par la procréation, comme des enfants d'Israël. Quoique, il y a des chrétiens pour lesquels c'est important, qui prennent le projet de multiplication, d'avoir beaucoup d'enfants très au sérieux. Hein. Mais c'est surtout la multiplication par l'évangélisation. Parce que ce qui est important, c'est la multiplication des nouvelles naissances spirituelles. On est dans une autre dimension encore. Et le pays ne se limite pas aux frontières géographiques de Canaan, mais s'étend au monde entier. Et le baptême a remplacé la circoncision. Et la bénédiction ultime, c'est la présence de Jésus. Être avec Jésus, ou qu'il soit avec nous. Et c'est ça la bénédiction aujourd'hui. Elle rentre dans ce cadre-là, je pense. Et si on amène la bénédiction de Jacob, qu'est-ce que ça nous enseigne pour aujourd'hui? La bénédiction se reçoit toujours à Bethel, la porte de la maison de Dieu. Ça passe toujours par Jésus-Christ. J'en ai parlé, c'est toujours au pied de la croix que ça commence, et c'est au pied de la croix où l'on doit régulièrement revenir dans notre marche spirituelle. La bénédiction est compatible avec la douleur. Ce n'est pas parce que nous vivons des vies douloureuses où il y a de la frustration, où il y a des souffrances, où il y a des choses qui ne vont pas, que la bénédiction de Dieu ne repose pas sur nous pour autant. L'histoire de Jacob témoigne de ces choses-là. La bénédiction de Dieu entre dans notre histoire personnelle, je crois. C'est différent pour chacun d'entre nous. Nous avons une histoire personnelle, nous avons des parents, nous avons un arrière-plan. Et tout ça, cette bénédiction s'inscrit dans ce cadre-là. Abraham, Isaac et Jacob ont eu des vies très différentes. Mais ils ont eu une même bénédiction. Notre famille n'est peut-être pas parfaite. Mais c'était le cas de Jacob. Hein. Quand on voit la famille de Jacob, ses enfants, la façon dont ils se sont conduits, oulala. Mais on cherche les endroits où il nous dit du bien dans tous ces textes. Et pourtant, la bénédiction de Dieu reposait sur la famille de Jacob. Votre famille n'est peut-être pas parfaite. Votre église n'est peut-être pas parfaite non plus. La famille spirituelle. Mais cela n'empêchera pas Dieu d'accomplir son projet de bénédiction. La bénédiction de Dieu entre dans notre histoire personnelle. La bénédiction de Dieu entre dans le plan de Dieu. Dieu veut bénir l'humanité entière. Et donc, je l'ai souvent soulevé, on a un rôle à jouer. On a vu chaque fois combien les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, se sont impliqués dans ce plan de bénédiction. Et on le voit ici avec l'illustration de Benjamin, comment il s'est impliqué à fond dedans. Il ne faut pas perdre de vue cela. Isaac avait perdu de vue la bénédiction de Dieu quand il avait conditionné sa bénédiction à d'abord bien manger. Pour bénir son fils aîné, il avait décidé qu'il allait mourir. Or, il a vaincu encore après cet épisode-là. Il devait avoir à ce moment-là, je l'ai calculé, mais je l'ai plus, il doit y avoir une bonne cinquantaine d'années. Depuis, entre sa mort, il devait avoir 120 ou 130 ans. Quand il veut bénir Ésaü, le moment de son décès, il était vraiment pas prêt de mourir, mais il avait décidé que voilà, il fallait qu'il bénisse, qu'il allait avant de mourir. Et puis il avait décidé qu'il fallait qu'il mange bien avant, fasse un bon repas, là, tout ça, de bonnes conditions pour bénir son fils aîné, c'était lui qui lui donnait de bons repas, qui lui nourrissait bien. La bénédiction pour un plat de viande. Et là, je crois qu'Isaac, il avait quand même un peu perdu de vue la bénédiction de Dieu, celle d'Abraham, celle qu'il a donnée après à son fils Jacob. C'est pas pour ça que Dieu a une dimension prophétique dans la bénédiction d'Isaac. Bon, on va en parler un peu la semaine prochaine. Mais nous, pour nous, ne perdons pas de vue la bénédiction de Dieu pour aujourd'hui. Pour conclure, donc je disais, les pages de nos vies tournent. La bénédiction de Dieu écrit l'histoire. C'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est Dieu qui est le maître de l'histoire. C'est lui qui écrit tout, qui dirige tout, qui conduit tout. Et il faut rentrer dedans. Il ne faut pas se mettre à l'extérieur, c'est tellement ridicule. Ne passons pas à côté de notre destinée. Entrons dans le plan de la bénédiction de Dieu pour l'humanité. La recevoir et la transmettre, cette bénédiction. Parce qu'il y a un jour où nous serons tous ensemble, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, en compagnie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Déborah, de Rachel, de Benjamin, et de tous les autres qui ont eu foi dans les promesses de Dieu, qui ont eu foi dans sa bénédiction. Je termine donc par cet encouragement. Recevoir et transmettre. Seigneur, tes voix ne sont pas nos voix. Il nous est si souvent tellement difficile de les comprendre à travers les circonstances qu'on vit, et pourtant ton plan s'accomplit parfaitement. Merci Seigneur pour ces choses merveilleuses que tu fais. Merci pour la place que tu nous réserves dans le plan de l'humanité, de salut de l'humanité. Cette place que tu veux qu'on prenne à tes côtés, jouer notre partition au bon moment, faire entendre le petit, René Skin disait, il manque le petit triangle, de faire entendre le petit triangle dans la grande symphonie de la louange de Dieu. Seigneur, merci pour cet encouragement que c'est pas les choses de réussite et de prospérité telles que les hommes les conçoivent que tu proposes. C'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus élevé. que les circonstances dans lesquelles on peut vivre. Merci pour ces encouragements que l'on voit dans la vie de Jacob. Il n'avait pas eu une vie facile, mais tu l'as béni. Mais tu lui as donné un nouveau nom. Mais tu lui as donné des merveilleuses promesses, Seigneur, et tu l'as pris, et tu l'as transformé, et tu l'as changé son cœur. Tu as fait de lui une nouvelle personne. À Dieu soit la gloire. Ô Seigneur, fais pour nous la même chose. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.